Chapitre 6. Jacques Collin, malgré le danger de Madeleine, ne faillit pas en son rôle. Cet homme, qui connaissait la conciergerie aussi bien que les trois bagnes, se trompa si naturellement que le surveillant fut obligé de lui dire à tout moment « Par ici, par là !» jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au greffe. Là, Jacques Collin vit, du premier regard, accoudé sur le poêle, un homme grand et gros, dont le visage rouge et long ne manquait pas d'une certaine distinction, et il reconnut Sanson. « Monsieur est l'aumônier, » dit-il en allant à lui d'un air plein de bonhomie. Cette erreur fut si terrible qu'elle glaça les spectateurs. « Non, monsieur, » répondit Sanson, « j'ai d'autres fonctions. » Sanson, le père du dernier exécuteur de ce nom, car il a été destitué décemment, était le fils de celui qui exécuta Louis XVI. Après 400 ans d'exercice de cette charge, l'héritier de tant de tortionnaires avait tenté de répudier ce fardeau héréditaire. Les Sanson, bourreaux à Rouen pendant 2 siècles, avant d'être revêtus de la première charge du royaume, exécutaient de père en fils les arrêts de la justice depuis le XIIIe siècle. Il est peu de familles qui puissent offrir l'exemple d'un office ou d'une noblesse conservée de père en fils pendant 6 siècles. Au moment où ce jeune homme, devenu capitaine de cavalerie, se voyait sur le point de faire une belle carrière dans les armes, son père exigea qu'il vînt l'assister pour l'exécution du roi. Puis il fit de son fils un second, lorsqu'en 1793, il y eut 2 échafauds en permanence, l'un à la barrière du trône, l'autre à la place de Grève. Alors âgé d'environ 60 ans, ce terrible fonctionnaire se faisait remarquer par une excellente tenue, par des manières douces et posées, par un grand mépris pour Bibi Lupin et ses acolytes, les pourvoyeurs de la machine. Le seul indice qui, chez cet homme, trahissait le sang des vieux tortionnaires du Moyen-Âge, était une largeur et une épaisseur formidables dans les mains. Assez instruit d'ailleurs, tenant fort à sa qualité de citoyen et d'électeur, passionné, dit-on, pour le jardinage, ce grand et gros homme, parlant bas, d'un maintien calme très silencieux, au front large et chauve, ressemblait beaucoup plus à un membre de l'aristocratie anglaise qu'à un exécuteur des hautes œuvres. Aussi un chanoine espagnol devait-il commettre l'erreur que commettait volontairement Jacques Collin. « Ce n'est pas un forçat, » dit le chef des surveillances au directeur. « Je commence à le croire, » se dit M. Gault en faisant un mouvement de tête à son subordonné. Jacques Collin fut introduit dans l'espèce de cave où le jeune Théodore, en camisole de force, était assis au bord de l'affreux lit de camp de cette chambre. Trompe-la-Mort, momentanément éclairé par le jour du corridor, reconnut sur-le-champ Bibi Lupin dans le gendarme qui se tenait debout, appuyé sur son sabre. « Io sono Gabamorto, parla nostro italiano, » dit vivement Jacques Collin. « Vengo ti salvar. » « Je suis Trompe-la-Mort, parlons italien, je viens te sauver. » Tout ce qu'allaient se dire les 2 amis devait être inintelligible pour le faux gendarme, et comme Bibi Lupin était censé garder le prisonnier, il ne pouvait quitter son poste. Aussi, la rage du chef de la police de sûreté ne saurait-elle se décrire. Théodore Calvi, jeune homme au teint pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux yeux caves et d'un bleu trouble, très bien proportionné d'ailleurs, d'une prodigieuse force musculaire, cachée sous cette apparence lymphatique que présentent parfois les méridionaux, aurait eu la plus charmante physionomie, sans des sourcils arqués, sans un front déprimé, qui lui donnait quelque chose de sinistre, sans des lèvres rouges d'une cruauté sauvage, et sans un mouvement de muscles qui dénote cette faculté d'irritation particulière aux Corses et qui les rend si prompts à l'assassinat dans une querelle soudaine. Saisi d'étonnement par les sons de cette voix, Théodore leva brusquement la tête et crut à quelque hallucination. Mais comme il était familiarisé par une habitation de 2 mois avec la profonde obscurité de cette boîte en pierre de taille, il regarda le faux ecclésiastique et soupira profondément. Il ne reconnut pas Jacques Collin, dont le visage couturé par l'action de l'acide sulfurique ne lui sembla point être celui de son dabe. C'est bien moi, ton Jacques. Je suis en prêtre et je viens te sauver. Ne fais pas la bêtise de me reconnaître et aie l'air de te confesser. » Ceci fut dit rapidement. Ce jeune homme est très abattu, la mort l'effraie, il va tout avouer, dit Jacques Collin en s'adressant au gendarme. Dis-moi quelque chose qui me prouve que tu es lui, car tu n'as que sa voix. Voyez-vous, il me dit, le pauvre malheureux, qu'il est innocent, reprit Jacques Collin en s'adressant au gendarme. Bibi Lupin n'osa point parler, de peur d'être reconnu. Saint Prémy, répondit Jacques en revenant à Théodore et lui jetant ce mot de convention dans l'oreille. Saint Préty, dit le jeune homme en donnant la réplique de la passe. C'est bien mon dab. As-tu fait le coup?
Oui.
Raconte-moi tout afin que je puisse voir comment je ferai pour te sauver. Il est temps, Charlot est là. Aussitôt, le Corse se mit à genoux et parut vouloir se confesser. Bibi Lupin ne savait que faire, car cette conversation fut si rapide qu'elle prit à peine le temps pendant lequel elle se lit. Théodore raconta promptement les circonstances connues de son crime et que Jacques Collin ignorait. « Les jurés m'ont condamné sans preuve, » dit-il en terminant. « Enfant, tu discutes quand on va te couper les cheveux. » Mais je puis bien avoir été seulement chargé de mettre en plan les bijoux. Et voilà comment on juge, et à Paris encore. Mais comment s'est fait le coup? Demanda Trompe-la-Mort. Ah, voilà! Depuis que je ne t'ai vu, j'ai fait la connaissance d'une petite fille corse que j'ai rencontrée en arrivant à Pantin. Paris. Les hommes assez bêtes pour aimer une femme, s'écria Jacques Collin, périssent toujours par là. C'est des tigres en liberté, des tigres qui babillent et qui se regardent dans des miroirs. Tu n'as pas été sage. Mais, voyons, à quoi t'a-t-elle servi, cette sacrée largue? Cet amour de femme, grande comme un fagot, mince comme une aiguille, adroite comme un singe, a passé par le haut du four et m'a ouvert la porte de la maison. Les chiens, bourrés de boulettes, étaient morts. J'ai refroidi les deux femmes. Une fois l'argent pris, la Ginette a refermé la porte et est sortie par le haut du four. Une si belle invention vaut la vie, dit Jacques Collin, en admirant la façon du crime comme un ciseleur admire le modèle d'une figurine. J'ai commis la sottise de déployer tout ce talent-là pour 1000 écus. Non, pour une femme, reprit Jacques Collin. Quand je te disais qu'elle nous ôte notre intelligence. Jacques Collin jeta sur Théodore un regard flamboyant de mépris. « Tu n'étais plus là, » répondit le Corse, « j'étais abandonné. » « Et l'aimes-tu, cette petite ?» demanda Jacques Collin, sensible aux reproches que contenait cette réponse. « Ah, si je veux vivre, c'est maintenant pour toi plus que pour elle. » « Reste tranquille, je ne me nomme pas pour rien Trompe-la-Mort, je me charge de toi. » « Quoi? La vie ?» s'écria le jeune Corse en levant ses bras emmaillotés vers la voûte humide de ce cachot. « Ma petite Madeleine, apprête-toi à retourner au Pré à Vioc, » reprit Jacques Collin. « Tu dois t'y attendre, on ne va pas te couronner de roses comme le bœuf gras. S'ils nous ont déjà ferrés pour Rochefort, c'est qu'ils essaient à se débarrasser de nous. Mais je te ferai diriger sur Toulon, tu t'évaderas, et tu reviendras à Pantin, où je t'arrangerai quelque petite existence bien gentille. » Un soupir, comme il en avait peu retenti sous cette voûte inflexible, un soupir exhalé par le bonheur de la délivrance, choqua la pierre qui renvoya cette note, sans égale en musique, dans l'oreille de Bibi Lupin stupéfait. « C'est l'effet de l'absolution que je viens de lui promettre à cause de ses révélations, » dit Jacques Collin au chef de la police de sûreté. « Ces Corses, voyez-vous, monsieur le gendarme, sont pleins de foi. Il est innocent comme l'enfant Jésus, et je vais essayer de le sauver. » « Dieu soit avec vous, monsieur l'abbé !» dit en français Théodore. Trompe-la-Mort, plus Carlos Herrera, plus chanoine que jamais, sortit de la chambre du condamné, se précipita dans le corridor et joue à l'horreur en se présentant à M. Gault. « Monsieur le directeur, ce jeune homme est innocent, il m'a révélé le coupable. Il allait mourir pour un faux point d'honneur. C'est un Corse. Allez demander pour moi, dit-il, 5 minutes d'audience à monsieur le procureur général. Monsieur de Granville ne refusera pas d'écouter immédiatement un prêtre espagnol qui souffre tant des erreurs de la justice française. » « J'y vais, » répondit M. Gault, au grand étonnement de tous les spectateurs de cette scène extraordinaire. « Mais, reprit Jacques Collin, faites-moi reconduire dans cette cour en attendant, car j'y achèverai la conversion d'un criminel que j'ai déjà frappé dans le cœur. Ils ont un cœur, ces gens-là. » Cette allocution produisit un mouvement parmi toutes les personnes qui se trouvaient là. Les gendarmes, le greffier des écrous, Samson, les surveillants, l'aide de l'exécuteur qui attendait l'ordre d'aller faire dresser la mécanique en sigle de prison, tout ce monde sur qui les émotions glissent fut agité par une curiosité très concevable. En ce moment, on entendit le fracas d'un équipage à chevaux fins qui arrêtait à la grille de la conciergerie sur le quai d'une manière significative. La portière fut ouverte, le marchepied fut déplié si vivement que toutes les personnes crurent à l'arrivée d'un grand personnage. Bientôt, une dame, agitant un papier bleu, se présenta, suivie d'un valet de pied et d'un chasseur, à la grille du guichet. Vêtue tout en noir et magnifiquement, le chapeau couvert d'un voile, elle essuyait ses larmes avec un mouchoir brodé très ample. Jacques Collin reconnut aussitôt Asie, ou, pour rendre son véritable nom à cette femme, Jacqueline Collin, sa tante. Cette atroce vieille, digne de son neveu, dont toutes les pensées étaient concentrées sur le prisonnier, et qui le défendait avec une intelligence, une perspicacité égales en puissance à celle de la justice, avait une permission donnée la veille au nom de la femme de chambre de la duchesse de Maufrigneuse, sur la recommandation de M. de Sérisy, de communiquer avec Lucien et l'abbé Carlos Herrera dès qu'il ne serait plus au secret et sur laquelle le chef de division chargé des prisons avait écrit un mot. Le papier, par sa couleur, impliquait déjà de puissantes recommandations, car ces permissions, comme les billets de faveur au spectacle, diffèrent de forme et d'aspect. Aussi le porte-clés ouvrit-il le guichet, surtout en apercevant ce chasseur emplumé dont le costume vert et or, brillant comme celui d'un général russe, annonçait une visiteuse aristocratique et un blason quasi royal. « Ah, mon cher abbé !» s'écria la fausse grande dame, qui versa un torrent de larmes en apercevant l'ecclésiastique. « Comment a-t-on pu vous mettre ici, même pour un instant, un si saint homme ?» Le directeur prit la permission et lut « À la recommandation de son Excellence, le comte de Sérisy. »« Ah, madame de Saint-Esteban, madame la marquise !» dit Carlos Herrera. « Quel beau dévouement !»« Madame, on ne communique pas ainsi, » dit le bon vieux Gault. Et il arrêta lui-même au passage cette tonne de moire noire et de dentelle. « Mais à cette distance, » reprit Jacques Collin, « et devant vous ?» ajouta-t-il en jetant un regard circulaire à l'assemblée. La tante, dont la toilette devait étourdir le greffe, le directeur, les surveillants et les gendarmes, puait le musc. Elle portait, outre des dentelles pour 1000 écus, un cachemire noir de 6 000 francs. Enfin, le chasseur paradait dans la cour de la conciergerie, avec l'insolence d'un laquais qui se sait indispensable à une princesse exigeante. Il ne parlait pas au valet de pied qui stationnait à la grille du quai, toujours ouverte pendant le jour. « Que veux-tu? Que dois-je faire ?» dit Madame de Saint-Esteban dans l'argot convenu entre la tante et le neveu. Cet argot consistait à donner des terminaisons en « ar » ou en « or », en « al » ou en « i », de façon à défigurer les mots, soit français, soit d'argot, en les agrandissant. C'était le chiffre diplomatique appliqué au langage. Mets toutes les lettres en lieu sûr, prends les plus compromettantes pour chacune de ces dames, reviens mise en voleuse dans la salle des pas perdus et attends-y mes ordres. » Asie, ou Jacqueline, s'agenouilla comme pour recevoir la bénédiction et le faux abbé bénit sa tante avec une componction évangélique. « Addio, marchesa !» dit-il à haute voix. Et, ajouta-t-il en se servant de leur langage de convention, « retrouve Europe et Paccard avec les 750 000 francs qu'ils ont effarouchés, il nous les faut. »« Paccard est là !» répondit la pieuse marquise en montrant le chasseur les larmes aux yeux. Cette promptitude de compréhension arracha non seulement un sourire, mais encore un mouvement de surprise à cet homme qui ne pouvait être étonné que par sa tante. La fausse marquise se tourna vers les témoins de cette scène, en femme habituée à se poser. Il est au désespoir de ne pouvoir aller aux obsèques de son enfant, dit-elle en mauvais français, car cette affreuse méprise de la justice a fait connaître le secret de ce saint homme. Moi, je vais assister à la messe mortuaire. « Voici, monsieur, dit-elle à monsieur Gault, en lui donnant une bourse pleine d'or. Voici pour soulager les pauvres prisonniers. » « Quel chic marre !» lui dit à l'oreille son neveu satisfait. Jacques Collin suivit le surveillant qui le menait au préau. Bibi Lupin, au désespoir, avait fini par se faire voir d'un vrai gendarme à qui, depuis le départ de Jacques Collin, il adressait des « significatifs et qui vint le remplacer dans la chambre du condamné. Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort ne put arriver assez à temps pour voir la grande dame qui disparut dans son brillant équipage et dont la voix, quoique déguisée, apportait à son oreille des sons rogomeux. « 300 balles pour les détenus !» disait le chef des surveillants en montrant à Bibi Lupin la bourse que M. Gault avait remise à son greffier. « Montrez, M. Giacometti !» dit Bibi Lupin. Le chef de la police secrète prit la bourse, vida l'or dans sa main, l'examina attentivement. « C'est bien de l'or, dit-il, et la bourse est armoiriée. Ah, le gredin, est-il fort? Est-il complet? Il nous met tout dedans et à chaque instant. On devrait tirer sur lui comme sur un chien. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda le greffier en reprenant la bourse. « Il y a que cette femme doit être une voleuse !» cria Bibi Lupin en frappant du pied avec rage sur la dalle extérieure du guichet. Ces mots produisirent une vive sensation parmi les spectateurs, groupés à une certaine distance de M. Sanson, qui restait toujours debout, le dos appuyé contre le gros poêle, au centre de cette vaste salle voûtée, en attendant un ordre pour faire la toilette aux criminels et dresser l'échafaud sur la place de grève. En se retrouvant au préau, Jacques Collin se dirigea vers ses amis, du pas que devait avoir un habitué du pré. « Qu'as-tu sur le casaquin ? » dit-il à la pouraille. « Mon affaire est faite, reprit l'assassin que Jacques Collin avait emmené dans un coin. « J'ai besoin maintenant d'un ami sûr. »« Et pourquoi ?» La pouraille, après avoir raconté tous ses crimes à son chef, mais en argot, lui détailla l'assassinat et le vol commis chez les époux Crottat. « Tu as mon estime, lui dit Jacques Collin. C'est bien travaillé, mais tu me parais coupable d'une faute. »« Laquelle ?» Une fois l'affaire faite, tu devais avoir un passeport russe, te déguiser en prince russe, acheter une belle voiture armoiriée, aller déposer hardiment ton or chez un banquier, demander une lettre de crédit pour Hambourg, prendre la poste, accompagné d'un valet de chambre, d'une femme de chambre et de ta maîtresse habillée en princesse. Puis, à Hambourg, t'embarquer pour le Mexique. Avec 280 000 francs en or, avec 280 000 francs en or, un gaillard d'esprit doit faire ce qu'il veut et aller où il veut. Simve. Ah, tu as de ces idées parce que tu es le dab. Tu ne perds jamais la Sorbonne, toi. Mais moi... Enfin, un bon conseil dans ta position, c'est du bouillon pour un mort, reprit Jacques Collin en jetant un regard fascinateur à son fanandel. C'est vrai, dit avec un air de doute la pouraille. Donne-le-moi toujours ton bouillon. S'il ne me nourrit pas, je m'en ferai un bain de pied. Te voilà pris par la cigogne avec 5 vols qualifiés, 3 assassinats, dont le plus récent concerne 2 riches bourgeois. Les jurés n'aiment pas qu'on tue les bourgeois. Tu seras gerbé à la passe et tu n'as pas le moindre espoir. Ils m'ont tous dit cela, répondit piteusement la Pouraille. Ma tante Jacqueline, avec qui je viens d'avoir un petit bout de conversation en plein greffe, et qui est, tu le sais, la mère aux fanandelles, m'a dit que la cigogne voulait se défaire de toi, tant elle te craignait. Mais, dit la Pouraille, avec une naïveté qui prouve combien les voleurs sont pénétrés du droit naturel de voler, je suis riche à présent, que craignent-ils ? Nous n'avons pas le temps de faire de la philosophie, dit Jacques Collin. Revenons à ta situation. Que veux-tu faire de moi ? Demanda la Pouraille en interrompant son dab. Tu vas voir, un chien mort vaut encore quelque chose. Pour les autres, dit la Pouraille. Je te prends dans mon jeu, répliqua Jacques Collin. C'est déjà quelque chose, dit l'assassin. Après ? Je ne te demande pas où est ton argent, mais ce que tu veux en faire. » La Pouraille espionna l'œil impénétrable du dab qui continua froidement. « As-tu quelque largue que tu aimes, un enfant, un fanandel à protéger ? Je serai dehors dans une heure, je pourrai tout pour ceux à qui tu veux du bien. » La Pouraille hésitait encore, il restait au port d'armes de l'indécision. Jacques Collin fit alors avancer un dernier argument. « Ta part dans notre caisse est de 30 000 francs. La laisses-tu aux fanandelles ? La donnes-tu à quelqu'un ? Ta part est en sûreté, je puis la remettre ce soir à qui tu veux la léguer. » L'assassin laissa échapper un mouvement de plaisir. « Je le tiens !» se dit Jacques Collin. « Mais ne fanons pas, réfléchis » reprit-il en parlant à l'oreille de la Pouraille. « Mon vieux, nous n'avons pas 10 minutes à nous. » Le procureur général va me demander et je vais avoir une conférence avec lui. Je le tiens, cet homme. Je puis tordre le cou à la cigogne. Je suis certain de sauver Madeleine. Si tu sauves mon bon dab, tu peux bien me... Ne perdons pas notre salive, dit Jacques Collin d'une voix brève. Fais ton testament. Eh bien, je voudrais donner l'argent à la Gonore, répondit la Pouraille d'un air piteux. Tiens, tu vis avec la veuve de Moïse, ce juif qui était à la tête des rouleurs du Midi ? Demanda Jacques Collin. Semblable aux grands généraux, Trompe-la-Mort connaissait admirablement bien le personnel de toutes les troupes. C'est elle-même, dit la Pouraille excessivement flattée. Jolie femme, dit Jacques Collin, qui s'entendait admirablement à manœuvrer ses machines terribles. La largue est fine. « Elle a de grandes connaissances et beaucoup de probité. C'est une voleuse finie. Ah, tu t'es retrempée dans la Gonore. C'est bête de se faire terrer quand on tient une pareille largue. Imbécile, il fallait prendre un petit commerce honnête et vivoter. Et que goupine-t-elle ? Elle est établie rue Sainte-Barbe, elle gère une maison. Ainsi, tu l'institues ton héritière ? « Voilà, mon cher, où mènent ces gueuses-là quand on a la bêtise de les aimer. »« Oui, mais ne lui donne rien qu'après ma culbute. »« C'est sacré, » dit Jacques Collin d'un ton sérieux. « Rien aux fanandelles ?»« Rien, ils m'ont servi, » répondit haineusement la Pouraille. « Qui t'a vendu ? Veux-tu que je te venge ?» demanda vivement Jacques Collin, en essayant de réveiller le dernier sentiment qui fasse vibrer ses cœurs au moment suprême. « Qui sait, mon vieux fanandel, si je ne pourrais pas, tout en te vengeant, faire ta paix avec la cigogne ?» Là, l'assassin regarda son dab d'un air hébété de bonheur. « Mais, répondit le dab à cette expression de physionomie parlante, je ne joue en ce moment la Miss Locke que pour Théodore. » « Après le succès de ce vaudeville, mon vieux, pour un de mes amis, car tu es des miens, toi, je suis capable de bien des choses. Si je te vois seulement faire ajourner la cérémonie pour ce pauvre petit Théodore, tiens, je ferai tout ce que tu voudras. Mais c'est fait, je suis sûr de cromper sa Sorbonne des griffes de la cigogne. Pour se désenflaquer, vois-tu la Pouraille, il faut se donner la main les uns aux autres. On ne peut rien tout seul. » « C'est vrai !» s'écria l'assassin. La confiance était si bien établie et sa foi dans le dab si fanatique que la Pouraille n'hésita plus. La Pouraille livra le secret de ses complices, ce secret si bien gardé jusqu'à présent. C'était tout ce que Jacques Collin voulait savoir. Voici la balle. Dans le poupon, Ruffard. L'agent de Bibi Lupin était en tiers avec moi et Godet. À Rachelaine, s'écria Jacques Collin en donnant à Ruffard son nom de voleur. C'est cela. Les gueux m'ont vendu parce que je connais leur cachette et qu'ils ne connaissent pas la mienne. Tu graisses mes bottes, mon amour, dit Jacques Collin. Quoi ? Eh bien, répondit le dab, vois ce qu'on gagne à mettre en moi toute sa confiance. Maintenant, ta vengeance est un point de la partie que je joue. Je ne te demande pas de m'indiquer ta cachette, tu me la diras au dernier moment. Mais dis-moi tout ce qui regarde Ruffard et Godet. Tu es et tu seras toujours notre dab. Je n'aurai pas de secret pour toi, répliqua la Pouraille. Mon or est dans la profonde, la cave, de la maison à la Gonore. Tu ne crains rien de ta largue ? Ah, ouiche, elle ne sait rien de mon tripotage, reprit la Pouraille. J'ai saoulé la Gonore, quoique ce soit une femme à ne rien dire, la tête dans la lunette. Mais tant d'or ! Oui, ça fait tourner le lait de la conscience la plus pure, répliqua Jacques Collin. J'ai donc pu travailler sans luisant sur moi. Toute la volaille dormait dans le poulailler. L'or est à 3 pieds sous terre, derrière des bouteilles de vin. Et par-dessus, j'ai mis une couche de cailloux et de mortier. Bon, fit Jacques Collin, et les cachettes des autres. Ruffard a son fade chez la Gonore, dans la chambre de la pauvre femme, qu'il tient par là, car elle peut devenir complice de Russell et finir ses jours à Saint-Lazare. Ah, le gredin, comme la raille, la police. Vous forme un voleur, dit Jacques. Godet a mis son fade chez sa sœur, blanchisseuse de faim, une honnête fille, qui peut attraper 5 ans de l'or se fait sans s'en douter. Le Fanandel a levé les carreaux du plancher, les a remis et a filé. Sais-tu ce que je veux de toi ? Dit alors Jacques Collin en jetant sur la Pouraille un regard magnétique. Quoi ? Que tu prennes sur ton compte l'affaire de Madeleine. La Pouraille fit un singulier haut-le-corps. Mais il se remit promptement en posture d'obéissance sous le regard fixe du dab. « Eh bien, tu renâcles déjà ? Tu te mêles de mon jeu ? Voyons, 4 assassinats ou 3, n'est-ce pas la même chose ? Peut-être. Par le maître des Fanandel, tu es sans résiner dans les vermichelles. » Sans sang dans les veines. « Et moi qui pensais à te sauver ? Et comment ? Imbécile, si l'on promet de rendre l'or à la famille, tu en seras quitte pour aller à Vieux-Copré. Je ne donnerai pas une face de ta Sorbonne si on tenait l'argent. Mais en ce moment, tu vaux 700 000 francs, imbécile. Dab, dab, s'écria la Pouraille au comble du bonheur. Et, reprit Jacques Collin, sans compter que nous rejetterons les assassinats sur Ruffard. Du coup, Bibi Lupin est dégommé, je le tiens. La Pouraille resta stupéfaite de cette idée, ses yeux s'agrandirent, il fut comme une statue. Arrêté depuis 3 mois, à la veille de passer à la cour d'assises, conseillé par ses amis de la force, auxquels il n'avait pas parlé de ses complices, il était si bien sans espoir après l'examen de ses crimes que ce plan avait échappé à toutes ses intelligences enflaquées. Aussi, ce semblant d'espoir le rendait-il presque imbécile. Ruffard et Godet ont-ils déjà fait la noce ? Ont-ils fait prendre l'air à quelques-uns de leurs jaunets ? Demanda Jacques Collin. Ils n'osent pas, répondit la Pouraille. Les gredins attendent que je sois fauché. C'est ce que m'a fait dire ma largue par la biffe quand elle est venue voir le biffon. Eh bien, nous aurons leur fade dans 24 heures, s'écria Jacques Collin. Les drôles ne pourront pas restituer comme toi, tu seras blanc comme neige et eux rougis de tout le sang. Tu deviendras par mes soins un honnête garçon entraîné par eux. J'aurai ta fortune pour mettre des alibis dans tes autres procès, et une fois auprès, car tu y retourneras, tu verras à t'évader. C'est une vilaine vie, mais c'est encore la vie. » Les yeux de la Pouraille annonçaient un délire intérieur. « Vieux, avec 700 000 francs, on a bien des cocardes !» disait Jacques Collin en grisant d'espoir son Fanandel. « Dab, dab !» J'éblouirai le ministre de la Justice. Ah, Ruffard la dansera, c'est une raille à démolir. Bibi Lupin est frit. Eh bien, c'est dit, s'écria la Pouraille avec une joie sauvage. Ordonne, j'obéis. Et il serra Jacques Collin dans ses bras en laissant voir des larmes de joie dans ses yeux tant il lui parut possible de sauver sa tête. Ce n'est pas tout, dit Jacques Collin. La cigogne a la digestion difficile, surtout en fait de redoublement de fièvre. Révélation d'un nouveau fait à charge. Maintenant, il s'agit de servir de belle une largue, de dénoncer à faux une femme. Et comment ? À quoi bon ? Demanda l'assassin. Aide-moi, tu vas voir, répondit Trompe-la-Mort. Jacques Collin révéla brièvement à la Pouraille le secret du crime commis à Nanterre et lui fit apercevoir la nécessité d'avoir une femme qui consentirait à jouer le rôle qu'avait rempli la Ginette. Puis il se dirigea vers le Biffon avec la Pouraille devenue joyeux. « Je sais combien tu aimes la biffe !» dit Jacques Collin au Biffon. Le regard que jeta le Biffon fut tout un poème horrible. « Que fera-t-elle pendant que tu seras au pré ?» Une larme mouilla les yeux féroces du Biffon. « Eh bien, si je te la fourrais, elle alors se fait des largues !» À la force des femmes, les Madelonnettes ou Saint-Lazare. « Pour un an, le temps de ton gerbement !» Jugement. De ton départ, de ton arrivée et de ton évasion. Tu ne peux faire ce miracle, car elle est nique de mèche. Sans aucune complicité, répondit l'amant de la biffe. Ah, mon biffon, dit la Pouraille, notre dabe est plus puissant que le meg. Dieu. Quel est ton mot de passe avec elle? Demanda Jacques Collin au biffon, avec l'assurance d'un maître qui ne doit pas essuyer de refus. Sorgue à Pantin, nuit à Paris. Avec ce mot, elle sait qu'on vient de ma part, et si tu veux qu'elle t'obéisse, montre-lui une thune de 5 balles. Pièce de 5 francs. Et prononce ce mot-ci, tondif. Elle sera condamnée dans le gerbement de la Pouraille et graciée pour révélation après un an d'ombre, dit sentencieusement Jacques Collin en regardant la Pouraille. La Pouraille comprit le plan de son dabe et lui promit par un seul regard de décider le biffon à y coopérer en obtenant de la biffe cette fausse complicité dans le crime dont il allait se charger. « Adieu, mes enfants, vous apprendrez bientôt que j'ai sauvé mon petit des mains de Charlot, » dit Trompe-la-Mort. « Oui, Charlot était au greffe avec ses soubrettes pour faire la toilette à Madeleine. » « Tenez, dit-il, on vient me chercher de la part du dabe de la gigogne. » Du procureur général. En effet, un surveillant sorti du guichet fit signe à cet homme extraordinaire à qui le danger du jeune Corse avait rendu cette sauvage puissance avec laquelle il savait lutter contre la société.